C'est la deuxième heure de ce 1312e Sweet Home Chicago. L'invité est Pierre Lacocque, leader du groupe Mississippi Heat. Pierre Lacocque est un harmoniciste, compositeur et producteur belge installé à Chicago depuis des décennies. Mais il est également psychologue de formation et de métier. À travers son groupe Mississippi Heat, qui existe toujours 35 ans après sa formation, il défend un blues vivant, sincère et engagé, fidèle à ses racines, mais ouvert sur le monde. Leur dernier album Don't Look Back, sorti chez Delmark Records, d'ailleurs, est une pure réussite. À travers la seconde partie de cette interview exclusive, Pierre Lacocque parle de Mississippi Heat et de leur nouvel album Don't Look Back, mais également de Sonny and Slim et d'autres artistes majeurs de Chicago, des différents vocalistes qui se sont succédés au sein du groupe, des rapports entre la psychologie et la musique, de ses projets, avec notamment une tournée européenne à l'automne, le tout copieusement parsemé d'extraits et de titres de Mississippi Heat. Vous pourrez trouver bien sûr la première partie de cette interview sur le Mixcloud de Sweet Home Chicago. Avant l'interview, on écoute You Ain't the Only One, extrait de Don't Look Back chez Delmark Records par Mississippi Heat. Do you think you ain't cool or believe that you are a fool? And the only one, Mississippi Heat avec Pierre Lacocque. Voici cette deuxième partie d'interview. Pierre Lacocque, Robert Covington dont vous parliez tout à l'heure et puis Bob Stroyer qui étaient tous les deux la rythmique de Monsieur Sonny and Slim dans les années 80 qui était un pianiste fabuleux et on y retrouvait également Steve Frohn à la guitare, Sam Burkhart au saxophone. Je me souviens notamment d'une soirée à Chicago, c'était lors de mon premier séjour en 1987 avec un Sonny and Slim absolument hilar qui racontait une anecdote. Vous savez, le club blues BLUES de North Halstead Suite au 2519 de la rue Halstead, c'est une rue qui doit faire dans les 50 km de long et il racontait qu'à chaque chaque fois qu'il repartait du blues, il montait dans un taxi, bien sûr différent chaque semaine, et lui disait straight on, c'est-à-dire on y va tout droit. Et en fait, lui, il habitait des centaines de blocs au sud, sur la même avenue, et au bout de 45 km, il disait stop. Et ça le faisait beaucoup rire.
Oui, oui, il a beaucoup aidé les musiciens, Sonny Landslam. Slim. Je ne l'ai pas bien connu, mais les rapports, les commentaires à son sujet ont toujours été élogieux. Steve Freund m'a beaucoup parlé de lui, et évidemment Covington et Stroger. Oui, il a beaucoup aidé des musiciens. Il était connu d'ailleurs, Sonny Landslam, pour accueillir des musiciens du sud qui venaient à Chicago pour essayer une carrière musicale, etc., de blues. Donc, il était très bien vu.
Well, I feel so bad. Feel like a ball game on a rainy day. Well, I feel so bad, baby. Feel like a ball game on a rainy day. Since I lost my baby, I shake my head and I walk away.
Et notamment par une chanteuse qui était également barmaid au club blues, Big Time Sarah, hein, qui chantait très régulièrement avec lui.
Non, c'est très juste. Bon souvenir.
Il y a Billy Flynn qui a succédé à John McDonald assez rapidement dans Mississippi. Billy Flynn qui est toujours là à la guitare. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fidélité? Et puis quelles sont vos relations, Pierre Lacocque et Billy Flynn, ensemble?
C'est vrai que ça fait des décennies maintenant.
Je compte 35 ans. Après, voilà, ça compte pas 35 ans.
Hein. J'ai tendance à être fidèle et je comprends comme chef d'orchestre que c'est pas facile de survivre financièrement avec un seul groupe, un seul projet, etc. Donc c'est assez commun que les musiciens ont d'autres projets, soit ils enseignent ou soit leur femme leur dise, ou leur mari leur dise, écoute, c'est ma musique ou c'est moi.
Ouais, il faut lever le pied, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc, et tout ça s'est passé avec plusieurs musiciens avec les années. Et financièrement, très souvent, c'est un problème, c'est pas assez, on se fait pas assez d'argent. J'ai des I have bills, comment dire en
anglais. Des dettes, des factures.
Oui, des factures, etc. Enfin, bref, il y a des contextes comme ça. Et aussi d'autres médicaux, comme avec Covington, Robert Covington, que j'adorais, et qui me disait, écoute Pierre, il avait des problèmes de boisson et d'alcoolisme et il a eu des opérations de kidney, de rein, je crois.
Ouais.
Et enfin, bref, il a eu plusieurs interventions chirurgicales et puis il n'était pas non plus... il prenait pas très bien soin de lui. C'était un chanteur extraordinaire.
C'était un fabuleux chanteur, ah oui, je confirme, vraiment. Pour l'avoir entendu sur 3 ou 4 morceaux simplement un soir, j'ai dit, mais qui est ce type? Pourquoi il n'est pas plus connu que ça?
C'est extraordinaire. Il appelait le Golden Voice.
Ouais, c'est ça.
C'était son nom. Et j'avais écrit une chanson pour lui quand il est décédé. J'avais écrit une chanson pour lui que je ne retrouve plus. J'ai trouvé les paroles, mais j'avais fait un reggae blues pour lui et je ne le retrouve plus. Enfin, j'étais très proche de lui, avec lui. Oui, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne se voit pas à 100%. Billy est très, très occupé, comme vous savez. Mm-hmm. Kim Wilson, des gens comme ça. Enfin, il a un Grammy. Il a reçu un Grammy Award avec Cadillac Records, le film.
Oui, tout à fait. Ça c'était vers 2007, par là, oui.
Oui, il est demandé, etc. Donc, Billy, je le choisis, je l'invite à certaines occasions, disons, mais je ne peux pas le garder plein temps. Voilà. Donc, mais je reste fidèle. En général, je garde des contacts positifs avec mes musiciens.
Pierre Lacocque, quand même, depuis toutes ces années-là, Mississippi Heat a vu passer un nombre incalculable de musiciens, de chanteuses surtout, et puis de chanteurs. Je voulais savoir, d'une manière générale, hein, on va pas détailler tout, parce que, mais comment se sont faites toutes les rencontres avec les chanteuses, plus particulièrement, qui, au fil des années, ont fait partie de votre groupe Mississippi Heat, et qu'est-ce que tout cela a apporté au groupe, toutes les chanteuses?
Donc c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc le seul chanteur qu'on a eu, c'était Robert Covington,
voilà.
Au début des années, et puis Bob Stroger nous avait présenté à Dietra Farr, qui est devenue notre chanteuse pendant plusieurs années, avec qui je garde très bon contact.
Et Dietra Farr qui a ensuite travaillé beaucoup avec Matthew Scholar, je crois.
Oui, Matthew Scholar, ils étaient très proches, mais avant de nous joindre, elle travaillait déjà
d'accord.
avec Matthew Scholar, ils étaient très proches, etc. Donc c'était merveilleux. Donc une fois qu'on a eu ce momentum avec Dietra Farr, qui était incroyable sur scène, une chanteuse extraordinaire, mesmerizing, comme on dit en anglais, et après, elle a décidé, elle avait d'autres offres, etc. Et après, on a décidé de garder le groupe avec une chanteuse comme chanteuse centrale. Et ça nous a donné une identité. Il y a énormément d'aspects positifs à avoir une chanteuse parce que l'audience répond d'une manière très positive en général. Et les femmes, of course, bien sûr, mais aussi l'audience. Et ça apporte une dimension, je ne veux pas être superficielle, mais intéressante dans le sens qu'il y a un compte rendu où il y a une histoire que la femme peut présenter en chanson qu'un homme ne pourrait pas le faire parce qu'il n'est pas mère, il n'est pas épouse ou il n'est pas femme. Donc c'est un bon challenge.
Du moment qu'elle fait comme Coco Taylor qui ne chante pas I'm a man mais I'm a woman, hein, ça c'est ce que nous avait souligné un artiste italien il y a quelques semaines dans une interview, Dario Lombardo, qui avait dit mais les femmes elles ont évidemment toute latitude et toute légitimité pour chanter le blues à condition qu'elles transforment certaines paroles si elles font des reprises, parce que sinon ça n'a bien sûr aucun sens. Et ça ce que vous venez de dire, ça annule un petit peu ma question suivante. Je voulais savoir s'il serait saugrenu d'imaginer un album de Mississippi Heat avec cette fois uniquement des chanteurs. J'imagine que c'est pas l'ordre du jour du coup.
Non, c'est-à-dire que des chanteurs, oui, je suis très réceptif et j'aime bien. D'ailleurs, il y a des contextes masculins, disons, pour hommes, pour chanteurs. J'écris la plupart des chansons, comme vous savez, et j'adapte et je convertis, ou bien dès le début, j'écris de l'aspect féminin, disons, comme une femme devrait ressentir. Je demande toujours conseil, je demande toujours à mes chanteuses, qu'est-ce que vous pensez de ci, de cela.
Oui.
Il y a énormément de parallèles entre l'homme et la femme, question existentielle, et la vie, le sens de la vie, l'amour, etc. Mais il y a aussi des différences. J'aime les deux. Je ne suis pas... Mais c'est vrai que j'aime les chanteurs aussi. J'aime bien Billy Boy Arnold, comme vous savez, qui a chanté pour nous. John Primer a chanté pour nous. Sur disque, Larry Bell a chanté pour nous.
Thank you.
somebody. Every time that feeling starts,
j'aime bien un mélange, mais c'est vrai que notre identité est d'une chanteuse comme Cheryl Youngblood maintenant, and Aneth Advisor, Tanisha Hamilton. J'aime bien, c'est un peu notre identité en fait avec les années.
Alors voilà, ces chanteuses-là qui se sont succédées, et puis dont trois que vous venez de citer qui figurent dans ce tout nouvel album, le Mississippi Heat, qui s'appelle Don't Look Back. Je crois savoir que c'est votre frère Michel, hein, vous en parlez, qui vous a incité à écrire les chansons pour le groupe. Quel est son rôle dans Mississippi Heat encore à l'heure actuelle à Michel Lacocque?
Donc Michel, donc c'est mon meilleur ami, c'est mon frère et ma sœur aussi, Elisabeth, qui plus tard est devenue continue à participer et à s'intéresser au groupe Elisabeth. Mais Michel, depuis le début, m'a toujours encouragé, comme je l'avais dit avec Teresa's Lounge, d'aller visiter Juno Wells. Il a toujours été là pour me pousser. Je suis plus timide, je suis introverti comparé à mon frère. Donc c'est toujours lui qui a un peu poussé. C'est lui qui amène souvent l'extravagance.
Ah oui, d'accord.
oui, l'extravagance, c'est Michel. Et il a des idées vraiment là. Alors, au début, je dis, ah non. Et puis après, je dis, ah ben, peut-être. Alors, non, il est là. Donc, c'est lui qui m'a. Il m'a dit, mon nickname, c'est Manu, parce que Pierre-Emmanuel, c'est mon premier nom.
Ah, d'accord.
Prénom,
d'accord.
De Pierre-Emmanuel avec Trait d'Union. Donc, Manu, c'est mon nickname. Et il m'a dit, Manu, écoute, tu es dans un groupe de professionnels. Soit tu ne l'es pas encore, etc. Écris tes propres chansons.
Voilà,
pour,
c'est ça. Ouais.
Écris des chansons. Pour avoir une ta propre aussi des griffes, je ne sais pas quel mot en français.
Ta propre patte ou ta propre signature,
oui,
en fait,
oui. Oui, comme ça, tu peux participer au son, non seulement avec l'harmonica, mais aussi aux paroles. C'est lui qui m'a encouragé. Billy Flynn me disait, oh, tu sais, Pierre, je sais que c'est difficile pour toi au début d'écrire les paroles, etc., mais ça va être de plus en plus facile. Il m'a dit, une fois que tu écris les chansons, ça veut dire. Et c'est vrai qu'avec les années, avec le temps et l'expérience, et tout ça, j'ai des idées déjà de ce qui pourrait marcher, de ce qui pourrait pas marcher, parce que j'ai déjà essayé pas mal d'angles, disons, musical et de paroles, et lyrics, comme
ouais,
on dit en anglais.
Ouais, tout à fait. Alors, vous parliez de vous-même tout à l'heure, Pierre Lacocque, comme étant plutôt quelqu'un d'introverti, mais quand vous jouez de l'harmonica en live, on sent quand même la passion dans votre langage corporel. Est-ce que vous êtes tellement parti dans la musique que ça vous fait oublier tout le reste? Et puis, à quoi pensez-vous dans ces moments intenses, justement, où vous jouez, vous donnez tout?
Merci, et c'est vrai, et je suis heureux, et je ressens, c'est pour moi le bonheur, c'est l'ensemble. Donc je joue, mais j'écoute ce qui se passe, j'écoute le batteur, j'écoute la basse, j'écoute les guitares. C'est une sorte de sentiment d'être heureux, d'être là.
Et une communion aussi peut-être.
Oui, c'est ça le mot, une communion, être inspiré musicalement avec des idées, et de me laisser aller, et en fait c'est thérapeutique, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours été comme ça. J'ai dû arrêter parce que ça me donnait pas ce sentiment, ou ça me donnait plus ce sentiment dans le passé, mais il y a très longtemps. Et pour utiliser des mots religieux, je sais pas combien de temps Dieu va me donner cette joie de jouer. Ça fait des décennies maintenant, donc je me dis, ben, je suis sur la bonne route.
Alors oui, j'utilisais un peu le mot communion, qui est lui aussi très connoté religion. Est-ce que le mot thérapeutique peut être un mot valise avec cathartique? Allons-y.
Oui. Absolument, absolument. Il y a une joie, il y a une libération. Je ne pense pas nécessairement. Si je pense plus à communiquer avec la scène, avec ce qui se passe sur scène. Un de mes défauts est que je dois me forcer, en fait, à parler à l'audience. Mais c'est très difficile pour moi parce que la musique me touche tellement que je ferme les yeux et que je ne suis pas, je m'excuse du mot, mais enfin, parce que c'est peut-être pas un beau mot, mais je ne suis pas flirteur dans le sens où je regarde les gens quand je joue, etc. Ouais, je ne suis pas comme ça. Si je regarde à l'audience, c'est plus, c'est pas pour ça.
Est-ce que c'est pas par inquiétude de voir si les gens suivent tout simplement, s'ils sont avec vous, ou est-ce que c'est tout simplement un regard complice avec le public?
Oui, donc oui, il y a peut-être un mélange, mais je pense, je ne réfléchis pas à ça. Mon expérience est plus domine, ma joie domine plus qu'autre chose, donc je dois me forcer à réfléchir. Ah oui, il faut que je parle aux gens, il faut que je leur dise, voilà, cette chanson, quel est le contexte de cette chanson, l'histoire derrière cette chanson, etc. Mm-hmm. Cheryl Youngblood, qui est très extravertie.
Ah, elle est très très expressive sur scène, ça c'est clair.
Exactement. Elle me pousse, allez, Pierre, dis-leur. Ah, ouais. C'est elle qui me pousse, comme mon frère, en fait. Elle me pousse à raconter aux gens, voilà, j'ai écrit cette chanson pour ma femme Vicky, c'est un reggae, voilà le contexte de la Havane, etc. Ma femme est cubaine, donc j'ai écrit des chansons un peu dans ce contexte-là, et avec paroles, etc. Donc c'est elle qui me pousse en fait à être plus extraverti, parce que je suis très heureux de jouer et de ressentir ma joie.
compléter cette réponse, Pierre Lacocque, le fait que vous soyez vraiment parti dans tous les sens du terme quand vous jouez de la musique, et puis pour faire un pont aussi avec le titre du dernier album de Mississippi Heat qui s'appelle Don't Look Back, est-ce que sur scène vous êtes dans le mood Don't Look Back, Don't Look Forward and Just Live the Present?
Il y a plusieurs, on peut interpréter.
Il y a plusieurs lectures.
Oui, à plusieurs lectures, oui. Je ne crois pas que ce soit qu'une seule dimension. C'est très difficile d'être chef de groupe, parce qu'il y a plusieurs, il y a énormément d'éléments dont je vous ai déjà parlé. Il y a des musiciens qui restent et des musiciens qui décident de faire plus qu'un groupe pour survivre financièrement. Et il y a toutes sortes de facteurs, disons, financiers, etc. Donc, Don't Look Back, il y a eu des déceptions aussi. Je veux dire, tiens, oh mince, alors, je dois remplacer personne, je dois trouver un nouveau bassiste, ou des choses comme ça. Donc, Don't Look Back, ça veut aussi dire, c'est aussi, il y a un élément positif, vis le présent, comme vous dites, Marc, et non, va vers le futur, tu es toujours là, tu aimes ce que tu fais en dépit de tes soucis. J'ai des soucis aussi à la maison, avec la santé de ma femme, enfin bref, j'ai plusieurs choses comme ça. Mais moi, je crois que ce qui me guide, c'est vraiment l'inspiration, c'est ma joie de voyager. J'aime beaucoup voyager, j'adore la France, entre d'autres pays, mais j'adore être en France, Suisse, Belgique, etc. Donc, j'adore voyager. Je vais en Argentine dans quelques semaines. Enfin bref, Don't Look Back, c'est aussi une sorte de rassurance, reassurance en anglais, qu'en dépit de tout, continue.
Pierre Lacocque, à propos de ce titre précisément, Don't Look Back, je vais vous en donner mon analyse, vous allez me dire si vous êtes d'accord. La chanson semble construite comme un message de survie et de dignité qui est vraiment ancré dans la tradition du Chicago Blues. Et là, le narrateur s'adresse à lui-même et à l'auditeur pour rappeler qu'il faut avancer sans gré, même quand le passé est lourd de blessures, d'échecs sentimentaux, de trahisons. Enfin, les paroles évoquent le poids du passé. Alors ça peut être les erreurs, les relations toxiques, les illusions perdues, la tentation de la nostalgie ou de l'auto-apitoiement, mais surtout la nécessité de regarder devant, de rester debout et de poursuivre sa route finalement. Le refrain insiste vraiment sur l'idée centrale. Regarder en arrière empêche d'avancer. La seule manière de survivre émotionnellement, c'est de couper avec ce qui fait mal. Donc dans l'esprit de Mississippi, c'est pas un blues plaintif, mais plutôt un blues combatif, presque un conseil de vie. Autrement dit, accepter ce qui a été, tirer les leçons, ne pas laisser le passé dicter l'avenir. Alors est-ce qu'on peut mettre en balance cette chanson avec un proverbe qui dit tout simplement qui oublie son passé se condamne à le revivre. Alors je mets ça en perspective avec ce qu'ont vécu vos parents d'une part, et puis avec l'état du monde actuel de l'autre. Une question peut-être à tiroir, Pierre Lacocque.
Oh ben c'est très très intéressant tout ça, Marc. très très intéressant. Non, ce n'est pas. Je suis d'accord avec Freud ici avec si tu ne te souviens pas de ton passé, tu es condamné à le répéter. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec cette idée. Donc non, c'est pas que c'est d'apprendre du passé, mais aussi de ne pas se laisser abattu par le passé. La chanson est un contexte, on peut même dire symbolique, mais c'est concret comme histoire, mais symbolique dans le sens va vers le futur. Mais je suis d'accord qu'il faut apprendre de son passé. D'ailleurs, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui m'a sauvé, moi, personnellement, c'est de mettre des mots à mes sentiments. Quand je vous avais dit, mon enfance et mon adolescence étaient très, très difficiles, sérieusement difficiles, je dirais même. Et c'est les mots qui m'ont aidé. Éventuellement, j'étais un enfant, un adolescent non verbal. J'étais, comme je disais, introverti. Donc, j'avais besoin des mots. Donc, me rappeler de mon passé m'a aidé à aller de l'avant.
D'accord, voilà. Ça, c'est tout à fait clair, effectivement. You say you care, red flags flying high. I know you're hurting, he always makes you cry. I know that you love him, but you got a blind eye. Sister, don't look back, his life is but a lie. He cheats on you, crying never ends. He's a mean trickster, he ain't no friend. You say that you love him, but you got a blind eye. Sister, don't look back, his life is but a lie. What you don't remember will come to haunt you. Oh, Cet album Don't Look Back, là on va parler plus musique et puis collaboration, et on retrouve bien sûr beaucoup d'autres musiciens comme Omar Coleman, Johnny Iguana, Brother John Catkay ou Kenny Billy Highsmith, quelques-uns des meilleurs représentants actuels du blues de Chicago. Je voulais savoir là encore d'une manière générale comment se sont faites toutes ces connexions, et puis est-ce que c'est aussi naturel qu'on le dit, avec la facilité habituelle qu'ont les musiciens de blues à se connaître, à jouer ensemble spontanément en perpétuant la tradition des jams?
Le monde du blues n'est pas aussi grand qu'on ne le pense, donc on se connaît bien en général, comme évidemment Kenny Smith a enregistré avec nous depuis 96, je dirais, donc il est sur tous nos disques comme invité maintenant parce que j'ai mon batteur aussi, mais parce que Kenny est très 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 en demande.
Ah oui, oui.
Et il est très très en demande, donc je ne peux pas le garder plein temps, mais comme cette famille, il est famille pour moi, et il habite d'ailleurs à 5 minutes de chez nous ici.
On va rappeler que c'est le fils de Willie Smith qui a été longtemps le batteur de Muddy Waters.
Exactement. Il y a Beady Eyes.
Beady Eyes.
Il y a Big Eyes. Non, nous avons une histoire avec les autres musiciens. J'ai des histoires. On joue déjà ensemble, etc. Mais faire un disque comme celui-ci, il nous a fallu des répétitions. On a fait plusieurs répétitions. Donc, un à un, disons, chanteuse avec moi, seul, bassiste, guitariste, etc. Donc, on a eu des répétitions avant l'enregistrement. Donc, ils avaient déjà des enregistrements, des rough, comme on dit. Des répétitions enregistrées, disons, comme ça, ils pouvaient les prendre à la maison et écouter. Donc, j'aime beaucoup préparer le groupe, pas nécessairement avec leur solo, etc., mais avec les arrangements des chansons. Comme ça, ça va plus vite, on perd moins de temps.
Avec des structures peut-être déjà écrites, avec un nombre de grilles.
Oui, absolument, absolument. Mmh. J'ai tendance à être très bien, très organisé, thank God, comme on dit. Et donc, les structures sont faites. Évidemment, il y a des discussions, il y a que pensez-vous de ceci, de cela, c'est des conversations. Je demande toujours avis, qu'est-ce que vous pensez, etc. Mais il y a une structure du début jusqu'à la fin, c'est vrai. Et donc, ça va plus vite en studio parce que les musiciens sont clairs. Voilà le début, voilà le milieu, voilà la fin de la chanson, voilà comment on termine, voilà comment on la lance, etc. Donc, ce n'est pas qu'un jam, même si j'adore cette dimension en enregistrement. Quand on enregistre, j'aime bien que les musiciens se laissent aller et fassent des solos spontanés. Bon, ça, c'est bien, mais ils ont la structure.
Est-ce que ça veut dire que les mêmes morceaux qui vont être produits sur scène vont bénéficier exactement de la même structure, ou est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer au fil peut-être de la réaction du public ou de l'ambiance ou de l'état mental de chacun sur scène? Je ne sais pas, il y a plein de paramètres.
Oui, donc sur scène, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on ne répète pas les mots, oui, mais les paroles, on ne répète pas nécessairement ce qui a été enregistré.
D'accord.
Voilà. Des fois, on reste plus longtemps. En fait, des solos, par exemple, sur enregistrement, je peux faire un solo d'harmonica, alors que sur scène, je peux en faire deux, par exemple, ou trois, ça, dépendant de ce qui passe sur scène. On s'adapte au présent.
Pierre Lacocque, j'ai une question. En dehors de ce fameux album qui vient de sortir, qui s'appelle Don't Look Back, de quel album du Mississippi Heat êtes-vous le plus fier et pourquoi? Alors, on démarre avec Straight From The Heart en 1992 et puis on va jusqu'à Madeleine en 2021.
Bon, ben... C'est comme dire, quel est votre enfant favori?
Oui, ça c'est difficile aussi. Ouais.
Oui, c'est difficile. Mais je dois dire que le son de ce disque-ci est très spécial pour moi. Le son, le travail avec Michael Freeman, qui est mon co-producteur, avec qui j'ai fait 7 maintenant, 7 sur 14, je crois.
La moitié des albums. Il y a 14 albums de Mississippi déjà.
Oui, c'est ça. Donc, c'est une amitié, une collaboration qui me donne énormément de plaisir. Mais j'aime beaucoup le son de Madeleine, qui est le prénom d'ailleurs de ma grand-mère maternelle. Mais bref, et celui-ci, Don't Look Back, j'adore le son des chansons et la manière, donc le mix, je traduis l'anglais encore, le mixing. Mmh,
le mixage, oui.
La production, etc. Et aussi la patience qu'on a mis sur ce disque-ci et Madeleine. Les deux derniers me font grand plaisir, vraiment. Mais tous, en général, ont leur histoire et leur positif, l'aspect positif aussi.
Alors, vous avez enregistré plusieurs albums pour le label Delmark Records depuis 2005, si je ne me trompe pas. Puis un live at Roses Lounge, qui avait été repris par Delmark Records, si je ne me trompe pas, également en DVD. Ça fait déjà un certain nombre d'années. Comment est-ce que vous avez vécu le passage de témoin entre Bob Custer, qui était le fondateur de Delmark, et la nouvelle équipe avec Julia Miller et Elvio Barilari?
Ça a pris un peu de temps pour comprendre le changement. J'étais très attaché, évidemment, au passé et le présent, donc avec Julia et Elvio. Ça a pris un peu de temps pour comprendre un peu où ils allaient, quelle était leur vision. Ils devaient prendre un peu de temps pour s'intégrer parce que c'était une nouvelle aventure, etc. Mais je m'entends extrêmement bien avec eux deux. Je suis très bien accueilli, encore une fois, j'aime bien le mot, et ils sont très, en anglais, supportive, encourageants.
Encourageants, oui, c'est ça.
Et j'espère qu'il y aura, je travaille sur un nouvel album maintenant, d'ailleurs.
Ah, déjà, d'accord.
Oui, donc c'est eux que j'ai en tête, j'aimerais bien continuer avec eux, ça va très très bien. Ça a pris un peu de temps, comme j'ai dit, et c'est pour ça que j'ai fait Madeleine, donc Madeleine en anglais.
Oui, c'était chez Van der Linden Records, ça c'était...
Oui, donc c'est le nom de famille de ma grand-mère, en fait, Van der Linden.
Ouais.
Madeleine, c'était son... Bref. Donc, mais après ça, ils m'ont dit, ils m'avaient déjà dit avec Madeleine, ils m'ont dit, écoute Pierre, viens chez nous, viens, la prochaine fois, n'attends pas, etc. Donc j'avais déjà été invité, en anglais, soumettre, je ne sais pas quel est le mot en français.
Oui, soumettre.
Le nouveau disque, donc...
Leur proposer, en tout cas.
Leur proposer, c'est le mot, Marc. Ils ont pris une semaine, donc je leur ai donné le master qu'on avait fait, Michael Freeman et moi. Quelques jours après, ils l'ont pris. Ils n'ont pas hésité, ce qui m'a beaucoup rassuré, j'étais très content. Oui. Ils ont dit oui, on le prend.
Alors Pierre Lacocque, il y a une question qui va peut-être se mêler avec une réponse de tout à l'heure par rapport au fait que vous disiez que la présence des chanteuses, ça apportait l'identité particulière à Mississippi, bien sûr. Et là, dans cet album Don't Look Back, il y a surtout Cheryl Youngblood qui joue sur 9 titres. Et puis on retrouve également Enata Visor et Danesha Hamilton. Comment s'est faite la répartition entre les trois, sachant que Cheryl Youngblood chante sur 9 titres?
Voilà. Donc c'est très très bonne question et c'est aussi une question délicate mais réaliste dans le sens que Aineta qui est avec nous depuis 30 ans
oui.
Et elle continue à chanter d'ailleurs demain et cette semaine nous avons 3 concerts dans les environs de Chicago, elle sera avec nous aussi Aineta. Mais Aineta a eu des problèmes de santé et j'ose pas trop en discuter mais disons que elle a failli mourir, voilà. Et donc je garde en anglais I keep my eye on her. Elle est famille pour toujours, donc je l'invite le plus souvent possible, mais elle ne peut plus toujours voyager, elle peut encore, mais elle a des problèmes
de santé, voilà, tout simplement.
Santé, voilà, alors je la garde, mais elle ne peut plus non plus chanter 9 chansons, disons, donc Cheryl est la chanteuse maintenant qui travaille avec nous, et c'est elle qui reçoit toutes les offres, si elle peut le faire c'est parfait, si elle ne peut pas le faire, j'ai toujours d'autres options, comme Danesha Hamilton qui est merveilleuse, elle est très très bonne chanteuse, et évidemment Aineta qui seront tous les deux d'ailleurs avec moi demain. Donc c'est le contexte, présenter Cheryl comme chanteuse de Mississippi Heat et de garder un peu contexte pour Aineta et Danesha qui s'entendent très très bien, Aineta et Danesha en particulier, ils s'entendent toutes bien, mais je ne voulais pas non plus diviser Danesha avec Aineta et donc je les ai gardées. J'aime beaucoup la chanson Quarter to Three où les deux chanteuses sont ensemble, et non, c'est Cheryl qu'on présente et c'est Cheryl qui reçoit toutes les offres que je reçois, je les offre à Cheryl. On revient du Mexique par exemple, Cheryl était avec moi.
Peut-être aussi une forme de passage de témoin avec une nouvelle génération, Cheryl étant, je pense, plus jeune que Aineta par exemple.
Oui, non, c'est très juste.
Sans être inconvenant bien sûr, mais je veux dire, voilà, la roue tourne pour tout le monde et effectivement, pour avoir vu Cheryl Youngblood dans le cadre du Chicago Blues Festival, la tournée en France il n'y a pas très longtemps, c'est, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un d'extrêmement communicatif sur scène, elle a une voix en or, elle est d'un dynamisme incroyable. C'est plus qu'un bonus pour un groupe d'avoir une chanteuse pareille
au line-up. Hein. Absolument. Et on s'entend extrêmement bien. Elle a un don énorme aussi. Et quand Aineta, disons, avait une bonne santé, etc. Non, je suis très très heureux avec elle, très content. On a très bien travaillé sur le disque ensemble. Elle est facile. Quand je vous dis, on revient du Mexique, par exemple, où on était, elle et moi d'ailleurs, Cheryl et moi, à Mexico City. On voyage bien ensemble. Non, nous sommes très bons collègues. Mmh. Et je respecte son groupe, parce qu'elle a aussi un groupe à Chicago. Mais en général, ça marche très très bien.
Alors Pierre Lacocque, vous avez été intronisé au Chicago Blues Hall of Fame en 2017. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous ?
Évidemment, c'est un honneur. Comme on dit souvent, un petit Belge. Mais bref, je suis très touché. C'est très spécial et c'est surtout venant de Chicago, la ville qui a changé ma vie. C'est ma ville. Ma femme qui est cubaine, comme je vous l'avais dit, voulait aller à Miami, à Floride, etc. Mais je lui ai dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire à Miami ? Je lui ai dit, on a de la famille, etc. Mais mon bonheur, c'est ici, etc. Enfin bref, donc on est resté à Chicago. Non, c'est une recognition.
Une reconnaissance, oui.
Une reconnaissance et c'était merveilleux, c'était bien. Une reconnaissance, c'est le mot, je crois.
Alors vous disiez, entre guillemets, je vous cite, un petit Belge. Je pense qu'aux États-Unis, c'est quand même un pays essentiellement de personnes immigrées, soit d'Afrique, soit d'Europe. En tout cas, les vrais Américains, les Amérindiens ont été parqués dans des réserves depuis fort longtemps. Le melting pot, il existe, il a toujours existé aux États-Unis. Et pourquoi pas un Belge parmi les bluesmen de Chicago, enfin, il n'y a aucun souci, je crois.
J'apprécie, Marc. Tout ce que je peux dire, c'est que je travaille, et j'aime ce que je fais, j'aime écrire, composer. Donc ça m'a plu d'être reconnu et de faire partie avec d'autres musiciens de la ville connus.
Il y a d'autres exemples d'artistes européens qui ont fait leur carrière effectivement aux États-Unis. Je pense notamment à Frank Goldwasser, qui est français, qui est parti en Californie au début des années 80, qui est en train d'en revenir maintenant, qui revient en France actuellement, mais qui a passé 45 ans aux États-Unis, qui a fait toute sa carrière là-bas, sur Oakland, dernièrement sur Los Angeles et puis Santa Barbara. Un garçon qui revient un petit peu désabusé parce que la scène blues californienne a l'air de, selon lui, d'être un petit peu en déficit par rapport à ce que lui a pu connaître. Ça m'amène à une avant-dernière question. Pierre Lacocque, comment est-ce que vous vous sentez dans le monde actuel du blues en 2026?
J'ai un peu, si je puis utiliser le mot avantage, parce que le groupe est connu et le groupe est en demande. Et donc, on est sur Delmark Records. Donc, on a 14 disques, des choses comme ça. Donc, dans ma vie, disons, j'ai 73 ans et il y a des choses positives qui se passent à cause de... le groupe est vieux, disons, des vieux dans question, il est là depuis des décennies, etc. Il y a certains avantages, mais ce n'est pas facile de survivre à Chicago. Il faut voyager, il faut d'autres outlets, il faut touring, comme on dit.
C'est ce que dit Bruce Iglauer de Alligator Records, exactement la même chose. Il ne va pas signer un artiste qui va rester dans sa ville. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse des tournées. C'est ça l'idée. Hein.
C'est ça, exactement, Marc. Il faut faire des tournées, il faut avoir, il faut voir au-delà de la ville, parce que en ville, oui, c'est bien, on fait tout. The House of Blues, Buddy Guys, Legends, on fait tout. Mais Kingston Mines, je suis là demain, à Kingston Mines, que j'adore. Enfin, bref, blues n'existe plus, comme vous savez, probablement maintenant.
Bah oui. Cette petite parenthèse sur le club BLUES Blues, qui est pas loin, en face pratiquement du Kingston Mines, c'est un endroit qui, si quelqu'un était bien inspiré de le reprendre, il faudrait faire beaucoup de travaux, bien sûr, mais c'est un endroit absolument mythique. Si un garçon comme John Primer avait un petit peu d'argent, je pense qu'il n'hésiterait pas une seconde à faire tous ces travaux-là.
Exactement. Voilà. C'est comme que tout ce que vous dites, c'est correct. Alors, c'est correct, Marc. C'est bien, c'est bien.
Ouais, il faut voyager. Allez. C'est ça le message. Voyager. Justement, ça m'amène à des projets. Une question inévitable en fin d'interview sur des projets 2026. Mais auparavant, une petite question corollaire. On avait évoqué Jerry Portnoy tout à l'heure. Je voulais savoir si vous aviez lu son ouvrage qui vient de sortir il y a quelques mois, quelques semaines, qui s'appelle Dancing with Muddy, où il raconte sa vie. En fait, c'est une biographie de Jerry Portnoy qui a vécu toute sa vie à Chicago et qui parle, bien sûr, de son expérience avec Muddy Waters, avec Eric Clapton, etc.
Non. En fait, ça m'intéresserait énormément. Et évidemment. Non, je ne l'ai pas lu du tout.
Bon.
J'ai le dernier livre que j'ai lu, c'est il y a quelque temps maintenant, sur Little Walter, sur la biographie sur Little Walter, qui m'a beaucoup intéressé, évidemment, parce que Little Walter, c'est mon maître harmoniciste. C'est, d'après moi, le meilleur interprète du Chicago Blues post-war, après la guerre. Enfin bref, non, je vais regarder pour Jerry Porn. Je sais qu'il écrit bien.
Ah oui, ça, c'est un euphémisme.
Ça m'intéresserait.
C'est un véritable écrivain. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, la traduction française, on l'attend. Hein. Donc, je me suis plongé dans le livre en anglais. Ça avance pas aussi vite que je voudrais, mais c'est quand même génial.
Kenny Smith, dont le fils de Big Eye Smith, Willie Smith, le connaît très très bien. Et il m'en parle quand on parle de Muddy Waters, etc. Il parle de Paul Asher, il parle de Jerry Portnoy. Je connais pas Jerry très bien. On s'est rencontrés. D'ailleurs, on s'est rencontrés aux funérailles de Willie Smith. Il est venu à Chicago.
Ouais.
Oui. Mais aussi, moi non, ça m'intéresserait énormément d'ailleurs. Merci de me le dire.
Bon, et ben voilà, ça c'est une lecture pour la suite de l'hiver, on va dire, Pierre Lacocq. J'ai une toute dernière question. Quels sont vos projets pour 2026? J'imagine défendre l'album sur scène, mais peut-être même monter une tournée européenne, peut-être. Enfin, en tout cas, on l'attendrait avec joie.
Ah, ça serait chouette. Donc, oui, il y a plusieurs projets, beaucoup d'invitations en Europe, en France même. Je dois voir comment on va faire. Mais à Tourneau à Genève, faire un atelier ou un masterclass.
Oui.
On l'a déjà fait dans le passé.
Mm-hmm.
Ça serait le octobre, on verra. Enfin, l'offre est là. Mais maintenant, c'est une question de détails, de vol, etc. Mais l'offre est là pour octobre. En Belgique, nous avons des offres là aussi. Au Danemark, Irlande. Enfin, bref, les offres viennent.
Si je traduis, il y a une tournée qui est en train de se monter pour l'automne 2026. En Europe.
On espère, en tout cas. Il y a des tournées au Canada qui s'amènent aussi cet été. Le Festival de Montréal, on espère l'avoir. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. On va en Argentine maintenant. Enfin, j'y vais seul cette fois-ci, en février. Et j'ai un projet d'enregistrement avec un groupe argentin et que je vais combiner avec un enregistrement ici à Chicago et que j'offrirai à Delmarc une fois que c'est fait. Donc, j'ai beaucoup de projets.
Génial. Pierre Lacocq, la dernière minute de cette émission est pour vous. Si vous avez des choses à exprimer, des choses à dire aux auditeurs de Sweet Home Chicago, ici sur le 666, c'est à vous, Pierre.
Bon, ben, merci pour cette entrevue, c'est merveilleux. Je suis très impressionné avec vos questions et notre conversation. Non, tout va très bien. Je me réjouis d'aller en Europe. J'adore l'Europe et j'adore évidemment la France, qui a toujours été très, très accueillante pour moi aussi. Et non, j'espère qu'on va pouvoir faire une tournée européenne le plus tôt possible.
Très bien. Merci beaucoup, Pierre, de cette entrevue. Et puis, bien sûr, bon vent à Mississippi Heat, à tous vos projets qui sont toujours foisonnants. Toutes ces années d'expérience, eh bien, don't look back, look forward, on va dire.
Oui, exactement. Merci, Marc.
Merci beaucoup, Pierre. À bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Merci. I accuse you of wanting to leave and of planning to hurt and deceive. I stepped out of line, sweet baby, this time, big time. You're a quiet man, I fooled myself. I didn't trust you when you kept it to yourself. I stepped out of line,
stepped
sweet baby, this time, big time. You
troubled, troubled past. Would have never believed your love would last. I stepped out of line, sweet, sweet baby, this time. Oh, big time. Big, 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 big time. Sorry.
Merci à Pierre Lacocque. On a pu écouter Sully and Slim Blues Band avec I Feel So Bad, extrait de Chicago Jump. On était en 1985. Et puis ensuite, on a continué à explorer, bien sûr, la discographie de Mississippi Heat, avec notamment Danielle Nicole dans Third Wheel, avec aussi Dave Trafford dans Hometown Boy sur l'album Thunder in My Heart. On était en 1995. Avec Larry Bell pour Cold Cold Feeling en 2005 sur l'album One Open Eye. Avec Cheryl Youngblood pour Can't Take It sur le dernier album Delmark Records Don't Look Back en 2025. Mississippi Heat encore avec Ainetta Visor avec Havana Enemy Alma sur l'album Madeleine, on était en 2022, avec Cheryl Youngblood pour Don't Look Back, un instrumental avec beaucoup d'harmonica bien sûr de Pierre Lacocque pour Moonshine Man, et puis ensuite Danesha Hamilton qui lui chantait Nothing I Can Do, ainsi que Cheryl Youngblood à nouveau pour Stepped Out of Line. Voilà, cette émission est terminée, on va se retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux invités, la deuxième partie de l'interview de Robert Adams, et puis également Nicolas Gélanski qui nous parlera du programme de La Traverse à Cléon. Salut, bye bye.